Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Les quatre amis, qu'eux autres, il y avait de la foi. Puis, Jésus, il a dit quelque chose de surprenant. Matthieu 5, 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les autres, c'est pas pour ça qu'ils s'en allaient là. Puis en grec, mettons, là, de la façon que c'est dit, là, « Tes péchés ça, te sont pardonnés », ça c'est dans le sens de « Tu t'en vas au ciel ». Tes péchés sont pardonnés. Si tu meurs, n'importe quand, tu t'en vas au ciel. C'est ça que ça voulait dire. Puis, de la façon que c'est dit, je pense qu'il parlait en araméen, ça se peut-tu? En tout cas, d'après les écrits hébraïques, de la façon que Jésus le dit, c'est comme si que c'était Dieu qui parlait. Parce qu'il y a juste Dieu qui a le droit de dire ça de cette façon-là. C'est pas comme « je te pardonne parce que tu m'as fait mal ». C'est pas ça. Là. Tes péchés sont pardonnés. T'es sauvé. Mais, eux autres, ben, comme qu'ils étaient juste à la phase de l'observation, ils ne parlaient pas. Mais ils pensaient dans eux autres. Comment ça, lui qui pardonne les péchés, il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas Dieu. Il n'a pas le droit de faire ça, là. Ben là, vu qu'il était dans la phase, il fallait se regarder, ça devait bouillir en dedans, certains. Fait que là, ben pour eux autres, il y avait deux possibilités. Ou bien c'est un blasphémateur, ou bien c'est Dieu. Puis, dans Marc 2, 8, là, Jésus, il les a surpris encore plus, parce que Jésus, il savait que c'est qu'il pensait, puis il leur a dit. Puis il lui a répondu, ben moi je suis allé dans Luc, là, mais c'est compté dans trois évangiles, cette histoire-là. M'en voulez Luc 22 à 26. Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole. Il connaissait leur pensée. Et il dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre et le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ça, c'est une autre affaire. Pourquoi qu'il a dit, qu'est-ce qui est le plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Mettons qu'à l'acte, qu'est-ce que t'en penses? Mettons que je te pose la question. Ben, c'est parce que, qu'est-ce qui est le plus facile de dire si tes péchés sont pardonnés? Parce que personne ne peut voir si c'est vrai. Mais le gars, là, qui est couché à terre, là, lève-toi et marche, là. Oh! Là, c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur à dire. C'est pour ça qu'il lui a posé cette question-là, de cette façon-là. Puis, OK. Pour finir, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est que les chefs là puis les docteurs de la loi là avec qu'est-ce qu'ils ont vu là tout qu'est-ce qui s'est passé là et on peut dire qu'ils l'ont eu pour leur argent puis on peut dire que quand ils sont retournés dans le ville puis dans le village là, ça devait virer en haut, là, à 100 000 à l'heure. Là. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis c'est sûr qu'on va voir plus tard qu'ils se sont montés contre Jésus, mais là, pour se monter contre une personne qui a fait toutes ces affaires-là, puis toutes les choses qui ont été témoins, là, fallait qu'ils veulent vraiment se monter contre lui, parce que, je sais pas, il me semble que c'était évident, là. Tout ce qui s'est passé là, c'était évident, en tout cas. Fait que, je vais céder la place à Jean-Sébastien, il va venir approfondir tout ça. Amen.
Puis maintenant, ben, je m'amuse à réétudier ça, mais cette fois-ci, j'y vais d'une manière un peu plus dévotionnelle avec vous autres. Ah, super histoire ce matin. Le titre de mon message, un demi-sandwich. Vous allez comprendre plus tard. Un demi-sandwich. Vous savez, moi, l'histoire de ma vie, c'est de trouver une balance entre le repos et le travail. Et j'étais touché, justement, quand on étudie les Évangiles, de voir comment Jésus se retirait à l'écart pour passer du temps avec son Père, mais qui était aussi pressé par les multitudes, par les besoins. Des fois, il est obligé de prendre une barque puis se pousser un peu de la rive tellement qu'il y a du monde qui presse sur lui puis qui ont des besoins. Puis Jésus, des fois, il y a plein de gens qui veulent être guéris, puis on le trouve pas. Il est où? Il est où? Il est où? Il est parti. Il faisait encore noir qu'il était parti prier son Père, tu sais. Et ces partages sur près du Père, ça m'interpelle. Ça me dit, prends soin de toi, approche-toi du Père. Mais il y a une autre tension dans ma vie, c'est celle d'être là aussi pour les autres, d'être là pour les gens autour de moi. Qu'est-ce que Dieu m'a appelé, puis je suis aussi interpellé par Jésus près du peuple, donc Jésus près du Père et Jésus près du peuple, qui est justement de libérer du temps pour moi, mais aussi comment je peux faire malgré tout pour ouvrir du temps pour les autres aussi. Et pour moi, ça c'est comme deux tensions qui tirent sur un élastique. Et que vous soyez parent, ouvrier, n'importe qui ici ont sa propre vie qui tirent sur eux, leurs besoins, tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie pour que ça marche, puis les autres, puis la raison pourquoi j'ai été placé sur la terre. Tu sais. Et on est un peu, des fois, écartelé entre les deux, puis on doit bien naviguer au travers de ça. Puis, cette tension-là, elle nous amène continuellement à négocier du temps pour soi, pour les autres. Et donc, on a besoin de reviser nos priorités parce que l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres font que le chrétien se pose cette question-là. Il se pose pas juste la question, qu'est-ce que je vais faire de tout mon temps libre pour moi? Je veux faire ci, je veux faire ça. Non, il y a un but à ma vie. Je suis ici pour quelque chose. Là, Dieu m'a placé sur terre pour quelque chose. Et donc... Philippiens, un verset qui me fait penser un peu à cette tension-là qu'on a, chacun d'entre nous, c'est dans Philippiens 2, au verset 5. Paul dit que votre attitude soit comme celle de Jésus. Lui, qui était de condition divine, a pris la condition de serviteur. Il s'est humilié et faisait preuve d'obéissance. Paul dit, un peu plus tôt, quand il nous dit, juste avant de nous dire, « Soyez donc dans la même attitude que le Seigneur », il dit, ayez de l'humilité et considérez les autres autour de vous comme supérieurs à vous-même et que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts seulement, regarde aussi à ceux des autres. Donc déjà, on a dans cet écrit-là de Paul qui dit, il faut que tu penses à toi, c'est normal de penser à toi, mais sois comme Jésus, puis pense aussi aux autres d'abord. Mais sans te négliger toi-même, pense aussi aux autres. Le texte qui continue, puis il dit que Jésus n'a pas eu peur de payer le prix. Quel prix est-ce qu'il a payé? Bien, avant de parler du prix qu'il a payé, il faut voir qu'est-ce qu'il voulait avoir. Et ce qu'il voulait avoir, c'était vous et moi au ciel avec lui, pardonnés de nos péchés, pouvant aller au ciel avec lui. Et pour que cela soit possible, il devait être celui qui paye le prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix. Il a pris tes fautes, mes fautes. Il a été séparé d'avec le Père. Il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais là, ce qu'il recevait sur la croix, c'était la punition que je mérite. Mais c'est quoi qu'il voulait avoir? Il voulait avoir une réconciliation. Il voulait que je revienne à lui. Et à cause qu'il voulait partager avec lui, avec moi, ce qu'il avait, c'est-à-dire la présence du Père au ciel, il était prêt à souffrir un moment pour nous laisser rentrer dans son intimité, dans sa famille, dans la famille du Père, si on peut dire. Fait que ça serait... vous allez voir, ma sandwich, elle s'en vient. Là. La demi-sandwich s'en vient. Donc, lui qui était Dieu, il n'avait pas peur d'être celui qui était le serviteur. Il venait là, puis il venait servir les hommes. Là. Lui qui a le droit d'être servi, lui qui a le droit à tout privilège, il est devenu comme un simple serviteur. Et Jésus nous dit, par l'apôtre Paul, « Soyez comme Jésus, puis soyez prêts, vous aussi, à considérer les autres. Soyez prêts à faire des sacrifices pour les autres. » Ce n'est pas de payer un prix pour souffrir. Des fois, il y en a qui se font souffrir, puis ils pensent que s'ils se font souffrir, ils vont être proches de Dieu. Il y en a qui montaient les marches d'une église, tu sais, puis l'oratoire Saint-Joseph, là, avec des genoux en sang, pensant que si on fait quelque chose qui les fait souffrir, Dieu va les laisser rentrer là où vous les acceptez. Là. Dieu ne veut pas qu'on ait tout de l'air des gens souffrants. Là. Ah, il faut souffrir pour servir le Seigneur. Non, il faut souffrir pour partager avec d'autres qu'est-ce qu'on a. Un peu comme Jésus, mais on n'a pas besoin de mourir sur la croix. C'est quoi le sacrifice chrétien? Le sacrifice chrétien, c'est de revoir nos priorités, puis de réaliser que j'ai quelque chose qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, et d'être prêt à sacrifier ça pour eux autres. Regardez autour de vous. Est-ce que tout le monde a la même chance que vous dans la vie? Est-ce que tous ont la même opportunité que vous? Souffrir pour Christ, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de refaire la croix, ça veut dire de diviser notre sandwich. Puis de réaliser que quand je vais donner une moitié de sandwich à quelqu'un qui n'avait pas rien préparé pour le repas, je vais avoir faim cette journée-là, mais je ne mourrai pas de faim. C'est de faire de la place pour les autres. OK? Il va en rester moins, mais tu ne mourras pas de faim, OK? Et tu ne regardes pas juste à tes besoins seulement, mais à une personne qui, elle ne mangera pas du tout. Donc là, les deux, on va manger moins, mais elle va manger plus, moi, je vais manger moins. OK? Ça commence par la compassion. Complétez la phrase. La compassion, c'est une pitié avec des pieds. Okay. C'est une façon que j'utilise pour me rappeler. La pitié avec des pieds. Ça veut dire, oh, il y a un besoin ici, puis c'est une pitié avec des pieds. Ça veut dire que je vais faire quelque chose pour l'autre. Je vais pas juste... c'est une émotion avec une action. OK? C'est je dis, wow, on n'est pas tous égales. Il y a quelqu'un qui a plus faim que moi ici, là. Mais je vais faire quelque chose. Je vais diviser ma sandwich avec l'autre personne. C'est un désir de faire quelque chose, de faire un pas pour changer une situation. Je pense à l'église présentement. Il y a des gens qui sont venus préparer l'immeuble ici pour la vente. Vous avez été impliqués de toutes sortes de manières, que ce soit en démanchant des armoires, relocaliser du stock, rester pour nous faire petit, prendre ce qu'il y a dans 18 000 pieds carrés puis le mettre dans 120 pieds carrés. Vous êtes venu vendre des accessoires, des meubles. Vous avez assisté aux négociations. Vous avez fait de la préparation de paperasse. Vous avez fait... il y a un mur qui a disparu, là. Je ne sais pas c'est qui a enlevé ça, mais ça, il n'a pas disparu tout seul. Vous avez donné des sous pour que l'œuvre continue. au travers les années, vous servez fidèlement de semaine en semaine, puis ça fait qu'il y a une place pour revenir. Tu sais, mes enfants, Nathaniel, il est à Sherbrooke. Fait que là, on le voit là, de plus en plus. Il y a Kaila qui est à Trois-Rivières. Il y a des églises qui sont dans leur région. À un moment donné, vous allez aller dans des églises qui sont dans vos régions. Mais en attendant, la place à revenir, c'est ici. Bien, pas obligé. Mais ils ne reviennent pas à un bâtiment. Hein. Si on serait dans un sous-sol avec des tuyaux puis toutes sortes de poussière, ils viendraient nous voir là. Parce qu'eux autres, ils reviennent à une communauté de gens qu'ils connaissent. Des gens qui font confiance. Puis à un moment donné, ben oui, ils vont aller dans certainement, ils vont servir le Seigneur dans une autre région. Mais en attendant, on est une communauté qui continue au travers des années, qui fait que les gens savent aussi où revenir. Bientôt, vous allez voir des gens qui ont déjà venu dans notre église. Ils vont commencer à être ici. C'est des gens que je rencontre en dehors des rassemblements. On est une communauté de gens que les gens reviennent à parce qu'elle existe encore, cette communauté-là, parce que les gens persévèrent, vous êtes fidèles de semaine après semaine. Puis à quelque part, c'est que vous ne pensez pas juste à vos headsets que vous avez à couper ou à vos travaux d'automne qui s'en viennent sur la maison. Vous pensez que c'est important de se réunir puis de continuer ensemble. Et toutes ces choses-là, ça fait qu'on regarde, il y a ma vie, il y a le Seigneur puis les autres de l'autre côté. Puis cette tension-là, on navigue au travers de ça. Dernièrement, il y a quelques chrétiens qui m'ont dit, « Wow, tu m'avais dit, il y en a une, Chali. » Chali, elle m'a dit, hey, elle dit, « Tu m'avais dit, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était l'année passée, on a été marcher dans mon quartier avec Kayla. Elle avait accepté le Seigneur, puis j'y avais dit, tu sais, tu vas en amener d'autres à Jésus, toi. Hein? » Puis là, ben Louis est venu la semaine passée, puis Louis, en passant, il a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel la semaine passée. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour ça? Fait que là, Chali était fière de me dire, « Hey, tu sais quoi, j'ai commencé à lire l'Évangile de Jean. » Puis là, elle est en train d'encourager Louis à télécharger l'application bible.is pour qu'il lise l'Évangile de Jean aussi. Puis elle dit, « Tu m'avais dit que j'étais pour amener quelqu'un à Jésus, tu sais. » Ou en tout cas, elle dit, « C'est mon premier, tu sais. » Elle dit, « C'est comme si elle ne me croyait pas au début. » Puis Guylaine, Daniel, à Saint-Michel-des-Saints, il y a un monsieur peut-être qui est avec nous ce matin, il s'appelle Luc, qui a commencé à se réunir là-bas, puis tout. Puis je me rappelle pas si c'est Guylaine ou Daniel, mais c'est la première fois que je parle du Seigneur, puis qu'il y a quelqu'un que, tu sais, qui vient, puis les gens sont encouragés. Tension, moi, puis les autres. Faire quelque chose pour les autres aussi. Je crois que c'est le facteur le plus important qui fait qu'on va grandir en tant qu'Église, autant en formation de disciples, en tant que qualité de chrétien, qu'en tant que numérique aussi, c'est-à-dire plus de chrétiens, des meilleurs chrétiens, puis de plus de chrétiens. Et c'est quoi qui va nous faire ça? Je vais le répéter plus tard dans mon message, mais c'est notre capacité à vivre dans la tension entre servir soi-même et servir les autres. Si on est capable de vivre dans cette tension-là, eh bien, on sait ce qu'on va voir dans le livre aujourd'hui, dans cette histoire-là de Capernaum. On va apprendre dans ça que c'est important de servir les autres puis de faire de la place pour les autres. Ça se passe à Capernaum. Saviez-vous que c'était la maison de Jésus? Ou peut-être la belle-mère de Pierre? Ou peut-être quelqu'un qui avait vraiment à cœur qu'est-ce que Jésus faisait, puis il l'a hébergé chez eux. Mais dans Marc 2:1, c'est écrit, Jésus était à la maison. Donc, c'est chez eux que ça se passe, ou en tout cas, à la place qu'il appelle chez lui. On a parlé de toi, tu n'étais pas là, Chali. Il faut que tu réécoutes le message. Ah, le pasteur m'avait dit de réécouter le message. C'est vrai que quand je réécoute les messages, là, waouh, c'est béni la parole de Dieu. Fait que... Merci, John. Matthieu 9:1, il était dans sa ville, dans Marc 2:1, il était à la maison. Donc, il est chez eux, puis c'est les gens qui se déplacent chez eux. Puis, vous avez déjà entendu parler de l'expression « Ah, ça a l'air du Capernaum ici ». Avez-vous déjà entendu parler de ça, cette expression-là? Non? Bien, il y a quelques années, vous auriez juste dû aller dans la chambre à Kaila et vous auriez dit « C'est le Capernaum ici ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Des pelures de bananes, là, en dessous de... Non, pas tant que ça. Non. Je ne parlerai pas des pelures de bananes qu'on avait trouvées. Capernaum, ça veut dire c'est le bordel ici, c'est le désordre ici, puis c'est probablement à cause de cette expression-là. Moi, mon boss, tu sais, il me dit souvent, il dit là, ça commence à avoir de l'air de Capernaum dans le programme, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi cette expression-là? Fait que je suis allé chercher un peu, puis ça a l'air que c'était, tu sais, quand tu sais plus où te placer, là. Tu sais, il y a tellement de stock que tu sais plus où te placer. Il y avait tellement de monde dans cette maison-là qu'on pouvait plus bouger. La maison où Jésus habite est bondée. Vous savez, l'exemple mieux qu'on pourrait avoir au Québec, c'est quand que c'est Noël, puis que les gens rentrent, puis qu'il n'y a pas assez de place pour mettre les bottes. Fait qu'on met toutes les bottes dans le bain, puis les manteaux sur le lit, là. Puis tu sais, quand on était fatigué, on allait dormir dans ces manteaux-là. Fait que là, on pourrait dire que c'était les gougounes dans le bain, tu sais. Puis, fait que c'était un vrai Capernaum, dans le fond, dans cette maison-là. Puis, le texte dit qu'il n'y avait plus de place pour eux. Vous allez dire, où c'est que tu as pogné ça? Bien, j'ai arrêté, puis j'ai juste pris le temps de réfléchir un peu. Puis, s'il y a tellement de monde dans cette maison-là, ceux qui étaient les propriétaires avec Jésus, admettons, là, de cette maison-là, là, ils devaient être obligés de laisser aller. Fait que être ouvert aux autres, là, c'est d'apprendre à laisser salir ses toilettes, à courir le risque que quelque chose va être brisé. C'est accepter que quelque chose ou quelqu'un arrive sans être invité. Tu sais, les toilettes sont propres quand on sait que la visite vient. C'est pas pareil quand on sait pas que la visite vient. Hein? C'est changer ses plans de place à cause qu'il y a besoin, il y a quelqu'un en besoin. Donc, Benoît l'a bien dit, le contexte, il y a un grand mouvement. Vous savez, c'est qui est assis, la majorité des gens qui sont assis dans cette maison-là, c'est qui? C'est des pharisiens, puis des docteurs de la loi, qui viennent de tous les villages de la Galilée et tous les villages de la Judée et de Jérusalem. Ça veut dire tout Israël est représenté par des docteurs de la loi, puis des pharisiens, parce qu'eux autres, ils ont étudié que le Messie, quand il viendrait, ben lui, il va guérir un lépreux, puis Jésus a guéri un lépreux dernièrement, fait que les gens du sud sont tous montés, mais en Galilée, il n'y a rien de bon qui vient de la Galilée, fait que personne ne va se déplacer en Galilée. On ne se déplace pas en Galilée. En Galilée, il n'y a rien qui vraiment de bon qui vient de là, surtout pas un Messie, tu sais. Mais là, il y a un lépreux qui a été guéri, puis la seule qui peut guérir un lépreux, depuis la loi de Moïse, c'est le Messie. Fait qu'on pourrait dire que c'est une gang de curieux, mais c'est pas nécessairement des amis. Mais au milieu d'eux, à quelque part, il y a des gens qui sont guéris parce que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Fait que Luc, il dit ça dans Luc 5, 17. Il y a un événement inusité qui se passe. Et là, je vais vous faire un exemple. Est-ce qu'on a des photos de votre maison, Juliane et Stéphane? On va faire afficher la photo de la maison de Stéphane et Juliane. Puis pendant qu'on fait afficher ça à l'écran, ils ont aussi fait une rallonge à leur maison dans la dernière année. C'est un beau coin de lecture, c'est un temps, c'est une belle place pour aller prendre le thé des Anglais. Hein? Là, vous imaginez, il y a un réveil à Saint-Valère. Fait que, tu sais, si on dit qu'on enlève une fenêtre à cette maison-là, tu sais, on vient arracher une partie de la maison, on arrache une fenêtre-là, tu dis, ben, elle était peut-être due, dans le fond, hein? On va aller à l'autre photo. Regardez la nouvelle maison. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Ça a changé de gueule, hein? On va-tu avoir l'autre avec le boudoir? On va trouver ça, tu peux... Ah, wow! Fait que ça, c'est la nouvelle rallonge qu'ils ont fait. Tu sais, ça donne le goût vraiment de rien briser. Donc là, imaginez que Jésus est en ville, puis qu'à Saint-Valère, il y a un réveil, puis les gens viennent de toutes les villes du Québec, mais pas n'importe qui. Des relouqueux, des gens qui sont pas dans la religion chrétienne évangélique, mettons, là, une haute hiérarchie, là, les évêques, les curés, des gens qui viennent voir, c'est quoi qui se passe ici à Saint-Valère, un petit village au Québec. Et là, pendant que les gens sont assis, il y a des gens qui arrivent, elle a mal au nez, elle est guérie, l'autre il a mal au coude, ils sont guéris, il y a des belles choses, puis là, il y a des relouqueux, il y a des gens qui sont là, puis sont assis, puis là, au début, Juliane était à la porte, puis là, elle leur dit, enlevez vos souliers, Allez vos yeux. Vous savez, pour ceux qui ont déjà été chez Julianne et Stéphane, ils ont 5 chats, puis ça paraît pas. Nous autres, on a un chat, un chien, des furets, puis ça paraît. Je vous dirais qu'il y a plus de poils un peu chez nous que chez Julianne et Stéphane. Donc, on leur donne des pantoufles, puis là, à un moment donné, là, il y en a qui rouvrent la porte d'en avant, puis là, les gens commencent à rentrer par la porte d'en avant, puis là, Julien est là, hey, vos bottes, là, il faut vous enlever vos bottes. Puis là, ben, à un moment donné, elle s'assit sur le balcon dehors, elle peut même pas rentrer, elle est chez eux, elle est assise sur le balcon, puis là, Jésus, lui, est dans la rallonge. C'est la meilleure place parce que la maison fait un petit peu comme un L, là, avec les deux salons, avec le salon puis la place d'entrée. Fait que c'est la place où il pense qu'il y a plus de monde qui vont l'entendre. Puis là, Stéphane, Lucie, il essaie d'accueillir le monde comme qu'il peut. Puis là, ben, Lucie, il est dehors. Puis là, ben là, il voit le paralytique arriver. Ils sont trois, puis ils traînent le paralytique. Ils ont de la misère à l'amener, tu sais. Puis là, Stéphane dit, il n'y a pas moyen de rentrer ni par la porte en avant, ni par la porte d'à côté. Il n'y a pas d'autre... On va défaire la fenêtre. On va défaire la fenêtre. Puis là... Avec tout le travail que ça a pris pour mettre cette fenêtre-là, il fait partie des quatre gars, ils vont défaire le châssis, comprends-tu? Il amène l'échelle de sa grange, un de ses 50 bâtiments. Puis, il fait que finalement, il ronge son frein un peu, mais il n'a pas hésité longtemps. Pourquoi? Parce qu'en regardant le besoin, il sait que si ce paralytique-là vient devant Jésus, ce paralytique-là va être guéri, mais Stéphane va avoir besoin de réinstaller sa fenêtre. Ben, il voulait être là pour être sûr qu'il y a des faces comme il faut aussi, quand même. C'est une petite image de rien de ce qui s'est passé, mais ça ressemble un petit peu à ça. Les trois évangélistes vont mettre l'emphase sur les quatre hommes. Ils vont dire chacun à leur manière qu'ils ont monté sur le toit, ils ont grimpé avec le paralytique sur probablement les escaliers, sur le toit d'été, ils ont défait le toit. Et ils l'ont fait descendre, et c'est écrit, « Jésus, voyant leur foi, a dit aux paralysés. » Pensez-y un petit peu. Jésus n'a pas dit aux paralysés, « T'as la foi. » Il a dit aux quatre, il a trouvé que leur foi les avait touchés, et il a fait du bien à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des gens qui ont démontré leur foi. Et ça, c'est important. Moi, c'est un peu l'emphase de mon message ce matin, c'est que dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Tu divises ta sandwich pour qu'il y en ait un autre qui mange. Ça, là, c'est fait avec foi, c'est fait par amour. C'est une foi qui est manifestée de dire, sais-tu quoi, il y a des obstacles, mais c'est pas parce que la porte d'en avant est pleine, c'est pas parce que la porte d'à côté est pleine, c'est pas parce qu'il y a un nom qu'on va juste arrêter là. On va contourner les obstacles, on va passer des obstacles, puis on va faire quelque chose pour quelqu'un qui, lui, aurait jamais même pas pu se présenter à cet événement-là aujourd'hui. C'est de faire des pieds et des mains pour placer quelqu'un devant le Seigneur. Il n'y a aucune mention de la foi du paralytique, mais Dieu va et le pardonner et le guérir. Ces gens-là, ils avaient tous un champ à labourer, des vaches à traire, ou ben non, des animaux à prendre soin et des maisons à s'occuper. Mais ils ont décidé d'avoir de la pitié avec des pieds, puis des émotions avec des actions, et leur compassion a fait qu'ils se sont placés en deuxième. Cette journée-là, c'était lui la priorité. Ça me fait penser, une fois on a fait un voyage de 13 heures, puis en auto, puis j'avais réservé pour 100 personnes à l'hôtel avec deux personnes par chambre, quatre personnes par chambre, mais deux lits doubles. Mais dans le contrat, c'était écrit que si tu réservais, tu confirmais pas tes chambres avant telle date, ils te garantissaient pas des chambres deux lits doubles. Il y avait 50% des gens qui étaient à terre parce qu'ils ont pas voulu nous donner des chambres deux lits doubles. Et on avait passé par une autre organisation qui était supposée de faire ce genre de travail-là, puis ils l'ont pas fait. Vous pouvez comprendre que l'année d'après, j'ai pu passer par eux autres. Mais là, j'avais une personne âgée qui vraiment pleurait. Là. J'avais une personne enceinte là, qui avait fait 13 heures de route. Là, puis c'était pas drôle. Là. Fait qu'à un moment donné, les gars, ils ont commencé, il y avait une clôture, puis elle était barrée. Ils ont commencé à sauter par-dessus les clôtures. Ils ont été chercher des pinces dans leurs autos, puis ils ont commencé à couper toutes les tie-wraps que les coussins là, de plage, là. Puis ils ont fait des lits de fortune dans toutes les chambres avec ces matelas-là, tu sais. Mais de voir ces gars-là commencer à couper tout, puis dire, regarde, on s'en fout, là, c'est pas ce qu'on devrait faire d'habitude, mais là, exception faite, c'était la meilleure chose à faire. Puis ce soir-là, ben moi, j'étais là, puis j'ai une marque dans le cerveau, je suis sûr que tu me passes un scanner, là, puis il y a au moins à peu près 5 cm, là, une brûlure d'ici jusque-là, quand il y a un gars qui s'appelait Denis, il me regarde, puis il dit, il n'y a pas de chambre pour tout le monde. Je dis non. Il n'y a pas de chambre pour tout le monde? J'ai dit non. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ça a brûlé, là, je l'ai senti, la brûlure. Fait que là, je m'en vais à la boîte téléphonique. Je commence à appeler à ceux qui avaient réservé le voyage. Je laisse ma carte de crédit là. Moi, je ne sais pas que je l'ai laissé là. Je me fais voler. Il y a quelqu'un qui part dans un parc d'amusement à Baltimore puis commence à dépenser des sous. Là, ma carte marche pas. Là, je ne trouve plus ma carte. J'appelle. Il y avait déjà. Là, je m'en vais à Baltimore, j'essaie de parler. En tout cas, tout ça pour dire, ces gens-là m'ont vraiment impressionné de par leurs gestes, tu sais, qui ont été prêts pour d'autres à faire des lits de fortune. En tout cas, l'histoire a fini que je pense plus totalement normalement depuis ce temps-là. Non. Mais dans la nuit, j'ai fait un rêve, puis je me suis levé, les gens qui étaient avec moi, dans le fond, ils m'ont vu somnambule, puis là, j'étais là, « Toi, tu t'en vas là! » Je faisais le trafic, là, tu sais, pour placer des gens dans les chambres, là, puis j'étais somnambule, tu sais. Mais le lendemain, Dieu a béni parce que il y a une employée qui a décidé de ne pas suivre les consignes, puis je disais, est-ce que tu aurais une chambre 2 lits doubles? Oui. Peux-tu transférer les gens de la chambre 17 à cette chambre-là? Bien sûr. Fait qu'elle fait, je dis, va chercher un tel, change de chambre tout de suite. Là, je disais, avez-vous une chambre 2 lits doubles? Je faisais comme si j'étais un nouveau client. Fait qu'au lieu de dire, j'étais l'ancien client, je faisais comme si j'étais un nouveau client. Oui. Ben, j'annule telle chambre, puis je prends telle chambre. On a fait ça comme ça, là, ça a pris une avant-midi. Pour revenir à... Donc, vivre pour les autres, ça implique des souffrances, là, effectivement, une marque dans mon cerveau. Donc, ces gens-là, ils avaient tous un champ à labourer, ils avaient tous des petites vies, puis cette journée-là, ils ont dit, « Charles, c'est toi qui compte, là, on va faire quelque chose pour toi. T'es plus mal amoché que moi, fait qu'on va te monter sur le toit, puis tu vas aller devant le Seigneur. » OK? Fait que ces gens-là, ce soir-là, sont venus puis se sont couchés exténués. Mais ce gars-là s'est levé. Puis quand il s'est couché ce soir-là, le lendemain, il s'est levé puis il a marché. Puis ça a fait une différence. Puis une personne qui souffre, elle regarde beaucoup à elle-même, mais une personne qui est le Seigneur guéri commence à penser aux autres. Vous savez, quand une personne vient à Jésus, parfois, elle a une difficulté dans plein de domaines de sa vie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens qui sont bien portants et que ça va bien dans leur vie, ils ont deux chars, un bateau, un chalet, puis une bonne job, ils ne ressentent pas nécessairement leur besoin de Jésus, le besoin d'être pardonné, mais ils en ont besoin. Par contre, moi, quand je suis venu à Jésus, ça n'allait pas bien, mon affaire. Puis, c'est pas que Jésus est une béquille pour les pauvres. Tu sais, souvent, tu vas voir ça, les gens vont dire, « Ah, c'est ça, vous autres, les chrétiens... ceux qui viennent à l'Évangile, tu sais, ça va pas bien dans leur vie. Ben c'est parce qu'eux autres, ils ont une longueur d'avance. Ils savent qu'ils ont réalisé leur impuissance et ils ont besoin d'une force supérieure qui est Dieu, qui est Jésus. Mais on parlait de ça hein, la semaine passée, hein, des étapes qu'on dans les AA ou dans les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. C'est un des pas pour aller avoir de l'aide dans notre vie, c'est de reconnaître qu'on a besoin de notre Créateur. Fait que les bien portants, le problème avec eux, ceux que ça va bien, ils n'ont pas besoin non plus de pardon. Ils n'ont pas besoin, ils pensent que, à quelque part, je vais appeler ça l'orgueil, c'est qu'on pense que tout ce qu'on fait est bon. Et mon message, c'est un appel à chacun d'entre nous. Chacun. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Ça va aller mieux. Puis il va vouloir que tu étendes, que tu revises ta politique des toilettes propres ou des souliers avant de rentrer ou des fenêtres qu'il faut arracher parce qu'il y a un autre besoin. Tu vas dire, ah, OK! Ça veut dire que ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose, mais pas pour coûter quelque chose. C'est pas pour le fun. On casse pas des fenêtres. Ha! Marcher avec le Seigneur, c'est casser qu'est-ce qu'on a. Non. C'est, regarde, il y a un paralytique, là. On va le rentrer là. Puis on s'occupera de la fenêtre après. les planchers vont être sales. Après que la maison est partie, là, Juliane, Stéphane. Stéphane s'en remet à réparer. Juliane commence à nettoyer les toilettes, puis tout le reste. Hein. Mais c'est un petit peu la même affaire avec nous autres. C'est drôle parce qu'une fois, j'avais dit, check bien ça, à un moment donné, là, Dieu va nous envoyer des gens qui vont être sous bien durs. Juste pour voir comment qu'on va gérer ça, si on est gracieux, tu sais. On a fait ça le mercredi soir, puis on faisait un feu le soir. C'était un feu de joie de la Saint-Jean. Puis il y en a deux qui arrivaient, on les connaissait pas. J'arrivais de des employés qui travaillaient dans un champ avec ton père, qui voyageait ton père. Ils sont arrivés, eux autres, après le rassemblement. C'était déjà avant ça, là, quoi, tu sais. Puis ils cherchaient une manière d'ouvrir leur bouteille de vin, tu sais. Puis on les aidait, tu sais. Mais on n'avait pas d'ouvre-vin, fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un couteau à beurre, on a poussé le liège dans le fond, puis on les a saoulés. Non, on les a pas saoulés. Ils se sont saoulés. Mais, sais-tu quoi? Je me disais, c'est-tu drôle, pareil? Je parle de ça le soir, puis je trouvais que c'était un sens de l'humour, pareil. Puis je disais, regarde, il faut que la maison va être sale, les planchers vont être sales dans... Un proverbe où, dans Ecclésiaste, ça dit quand l'étable est vide, elle est propre. Fait que c'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on veut une étable propre? Ou le verset d'après, il dit, mais c'est à l'abondance du bétail qu'on doit le revenu. Fait que c'est quoi tu veux avoir? Tu veux-tu avoir plein de gens qui viennent à Jésus puis qui sont guéris? Oui, OK, parfait. Ça va te coûter quelque chose. On va donner une ride à quelqu'un. Hein? Tant on a fait une annonce, une ride. À un moment donné, c'est moi qui vais avoir besoin. Vous allez faire quelque chose pour moi. On va avoir besoin d'avoir une tension. Puis dire, c'est-tu quoi? Je ne viens pas juste à l'église pour moi. Je viens aussi à l'église pour les autres. Puis on va avoir cette intention-là. Donc, c'était simplement ça mon message. Le facteur important, c'est, es-tu prête à diviser ta sandwich? Non, c'est à moi, mon précieux... Est-ce que c'est mon précieux? Non. Oui, fais-le. Non, veuille pas. Oui, fais-le. Es-tu prête à prendre ta sandwich puis de la donner? Tu vas avoir un petit peu plus faim ce soir-là, mais il y a quelqu'un qui n'aurait pas mangé du tout cette journée-là. Tu es prêt à faire ça? C'est exactement ce que Jésus veut. Il veut, dans son Église, il veut nous amener à cesser d'être juste centré sur ses propres besoins puis penser aux autres. Pense à ça et je termine avec ça. Que se serait-il passé cette journée-là si... Ah, pas de place. Pas de place. On ne peut pas rentrer. On ne fait rien. Mais qu'est-ce qui se serait passé si chacun était absorbé par auto, métro, boulot? Chacun avait ses animaux, chacun avait ses champs, chacun... Ah, puis de toute façon, c'est plein. Qu'est-ce qui se serait passé? Rien du tout. Rien pour ce paralytique-là. Jésus, voyant leur foi... a fait du bien à quelqu'un d'autre. Puis les gens, quand ils viennent à Jésus, ne savent même pas qu'ils ont besoin de lui. Mais ils savent répondre à l'amour, à la compassion, à l'émotion avec des actions, avec la pitié. Pitié avec quoi déjà? Avec des pieds, la pitié avec des pieds. Regardez ça rime, pitié avec des pieds, des émotions avec des actions. Donc si Jésus va faire du bien, c'est à nous de dire, hey, il est où mon trésor? Puis le trésor, c'est des gens. C'est des gens. Les gens ont une valeur. Hey, il m'a donné la moitié de sa sandwich. J'ai de la valeur. Je suis important pour lui. Fait que partagez la moitié de votre sandwich. C'était ça mon partage. Puis justement, avec l'heure qui est rendue, c'est quelle heure maintenant? Hein? 11h08? Fait qu'on va pouvoir faire le repas du Seigneur. Là, j'ai laissé assez de temps cette fois-ci. Pour Pierre de prendre la place.
Puis, recording stopped.
Et on va faire le repas du Seigneur ensemble. Amen!
Bien bonjour! Bienvenue chez nous. Un matin, je voulais vous partager par rapport à la scène qu'on va prendre ce matin.